Bonjour à tous et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis dans une quinzaine de minutes, que faut-il commémorer ou célébrer de notre passé? Quels personnages, quels événements, quelles dates, quelles œuvres aussi? Des questions qui reviennent régulièrement et l'affaire Charles Maurras n'en est qu'un témoignage parmi d'autres. Nous ouvrirons le débat avec l'un de nos plus grands historiens, fin connaisseur de ces sujets. Il dénonce l'avènement d'une dictature de la mémoire. Pierre Nora de l'Académie française viendra nous rejoindre tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Et le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux
Ali.
De vous retrouver. Premier sujet à l'ordre du jour du duel. C'était dans l'actualité cette semaine. Il y avait bien sûr l'affaire Laurent Wauquiez. Et après les révélations des propos qu'il a tenus devant les étudiants, sa défense, c'était mardi dernier sur BFM TV.
Les méthodes auxquelles se sont livrés un journaliste sont des méthodes de voyous. Et je pèse mes mots. Il s'est livré à une manipulation et a tendu une embuscade. Je donnais des cours à une trentaine d'élèves dans une enceinte privée. Il n'a pas fait un travail d'enquête. Il a contacté les élèves en amont, manipulé l'un d'entre eux pour le convaincre d'enregistrer ses propos à mon insu, pour ensuite en sortir ses extraits dans une rupture totale du contrat de confiance que j'avais avec les élèves.
C'était donc la voix devenue maintenant célèbre de Laurent Wauquiez. Quelle est la morale de cette histoire pour vous, Natacha Polony?
Alors, la question n'est sans doute pas celle d'une morale, mais c'est une histoire qui est à la fois assez pathétique et très intéressante. Très intéressante parce qu'elle touche à l'image que nous nous faisons de la politique et de ce que doit être un homme politique, un homme qui aspire à des hautes fonctions. La question de la frontière entre espace public et espace privé, dans la mesure où, pour ma part, je n'estime pas qu'une salle de cours soit un espace privé, mais qu'on puisse l'estimer est en soi extrêmement intéressant. Il me semble que derrière tout cela, il y a quelque chose qui relève, bien sûr, de la stratégie et de la posture de la part d'un homme qui se construit comme celui qui combat les médias, comme celui qui parle à la vraie France, à la France méprisée par un parisianisme. Voilà, il joue de cela et de ce point de vue-là, cette histoire rentre dans ce cadre-là et semble le servir. Toute la question qu'il y a derrière, c'est l'image qu'on se fait aussi du peuple, si tant est qu'on puisse définir le peuple, mais l'image qu'on s'en fait quand on accrédite l'idée qu'on ne lui parle pas véritablement en lui disant des choses ni intéressantes ni dignes, mais des bullshit. Et derrière ce mot bullshit, qui est tout de même extrêmement violent et extrêmement vulgaire, il y a tout ce que l'on peut penser du rapport entre les élites et le peuple, entre le politique, le journaliste et l'électeur.
Lui, pourtant, critique les élites, critique les élites et revendique un rapport direct au peuple, Raphaël Glucksmann.
Non, mais tout l'enjeu pour Laurent Wauquiez, c'est comment effacer le fait qu'il fasse lui-même partie des élites. Donc tout son travail consiste à ça, depuis l'accent jusqu'aux cheveux et le faux pédigré. Et là, se poser en victime des médias. Alors moi, ça me fait doucement rigoler parce que si on prend la liste des hommes politiques aujourd'hui en France, ils sont absolument tous victimes des médias. C'est-à-dire qu'on se demande bien qui n'est pas victime des médias. Même le président Macron, qui peut bénéficier d'une sorte de bienveillance médiatique, se permet de faire la leçon aux journalistes et se pose en conflit avec eux. Et donc, si en passant par Mélenchon, Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez, ils sont tous victimes des médias. C'est le nouveau positionnement des journalistes, des politiques, parce qu'ils ont trouvé une sorte de catégorie professionnelle encore plus détestée qu'eux, apparemment, c'est-à-dire les journalistes. et donc, ils cherchent comme ça à se mettre en conflictualité permanente avec les médias. Au-delà de cela, Laurent Wauquiez, à mon avis, est de bien mauvaise foi, parce que finalement, tout ce qu'il dit, son ton et son air bravache, pour finalement dire pas grand-chose, mais son air bravache, dénonciateur. Non, mais dénonciateur, mais c'est-à-dire qu'il dit des choses pas très profondes. Il dit des choses, oui, il dit des choses choquantes.
Dénonce
et tout ce qu'on
des complots.
Il dénonce des complots, voilà, exactement.
Et bien,
c'est exactement la manière dont il sort de ses enregistrements qu'il dit voler. Eh bien, c'est exactement la manière dont il cherche à se présenter, en fait. C'est-à-dire que en un sens, ça peut peut-être marcher, en partie, c'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il est détesté par l'élite, qu'il persécute, et que lui-même est l'homme du cash, quoi. Je parle cash, je suis une forme dérivée de Trump français, quoi, et c'est sa stratégie. Alors, le fait qu'il tacle comme ça, par exemple, Alain Juppé, c'est évidemment pour montrer que lui-même est différent. Lui, c'est la vraie droite. C'est pas comme la droite qui a renoncé à être de droite.
Sauf qu'il y a là un paradoxe majeur, et je pense que ça a été une erreur énorme de la part des journalistes de le comparer à Donald Trump. Parce qu'en effet, c'est le servir.
Pourquoi
c'est le servir, alors que ça n'a rien à voir.
C'est pas une comparaison flatteuse, en général.
Non, mais Trump en évidemment. Mais ça le sert dans le sens où, justement, il essaye d'apparaître comme celui qui pourrait gagner parce qu'il est du côté du peuple et attaqué par l'establishment. Or, pourquoi dis-je que ça n'a rien à voir ? Parce que Donald Trump, quand il transgresse devant un micro, transgresse ouvertement, n'a jamais cherché à cacher ses propos. Ce qu'il dit, il le dit aux électeurs, à tous les électeurs, au peuple américain auquel il entend s'adresser, et en plus, en abordant des sujets qui sont des sujets importants, la fiscalité, il en a parlé pendant sa campagne, la question de l'establishment justement et de son pouvoir, la question du politiquement correct, ce sont des sujets de fond. Or, là, qu'avons-nous avec Laurent Wauquiez ? Quelqu'un qui explique que donc il ne dit rien sur un plateau de télévision, ce qui relève quand même d'un certain mépris pour l'électeur qui est censé l'écouter par le biais des plateaux de télévision et qui ne peut pas bénéficier de son cours. Et en revanche, quand il est avec des étudiants, c'est-à-dire dans un petit milieu, une petite coterie, une école de commerce, là, en revanche, il va dire des supposées vérités. Mais de quoi relèvent ces vérités qui se mériteraient qu'on n'en parle absolument pas ? De sa détestation pour Valérie Pécresse ? De ce qu'il pense de Gérald Darmanin ? Pardon, mais c'est... Donald Trump est autrement plus subversif. Il y a du fond, on peut débattre de ce que dit Donald Trump, sauf quand il part dans ses délires sexistes ou racistes, mais il y a des choses qui se passent chez Donald Trump.
Si déjà éliminé la moitié de ses tweets.
Je suis d'accord, mais il en reste déjà suffisamment pour que ce soit beaucoup par rapport à ce que dit Laurent Wauquiez.
Ah non, mais ce qui est effarant, c'est que...
La comparaison avec Trump, vous la trouvez légitime ou non ?
Non, je pense que Wauquiez veut se comparer à Trump, et que sa stratégie, c'est de se présenter comme une forme de Donald Trump français. Effectivement, ce qui est marquant dans ses propos volés, mais moi j'en sais rien s'ils ont été réellement volés d'ailleurs, et si lui-même ne savait pas que ses propos allaient être rapportés, puisque ça, c'est, encore une fois, ça cadre avec le personnage qu'il veut façonner de lui-même. Mais ce qui est fascinant, c'est que effectivement la subversion, c'est sur des sujets de comptoir, c'est-à-dire que c'est machin est pas sympa, elle est pas jolie, et en gros, c'est tous des voleurs. Non,
mais
d'accord.
Il a occupé l'espace médiatique, il a convaincu son électorat d'amour encore.
Et ben, ce que je pense, c'est que on aurait tort, et c'est un peu la tendance des médias aujourd'hui, on aurait tort de trop le prendre à la légère. Parce que son but est hyper clair. Son but, c'est de solidifier une base et pas d'avoir 50% des voix pour l'instant. Et donc, pour solidifier cette base, il veut se présenter comme un bon membre de l'élite méprisante. Il pense que c'est comme ça qu'il va se présenter comme populaire.
Encore un mot, Natacha Polony.
Mais simplement, je pense que les médias lui ont servi sur un plateau exactement ce qu'il demandait, justement en le présentant comme le terrible Donald Trump, l'extrémiste. Et d'ailleurs, c'est cette façon de systématiquement l'attaquer comme s'il était dangereux me semble absolument ahurissante. Parce que justement, il n'a fait que prouver ses contradictions. Ce qu'il dit d'Angela Merkel, par exemple, qu'elle n'a pas de charisme. Pardon, il y aurait beaucoup à dire sur le rapport entre l'Allemagne et la France, sur l'Union européenne. Et là, ce serait subversif. Il n'y a jamais ça chez lui.
D'un mot, est-ce qu'il s'est installé comme le principal opposant à Emmanuel Macron ? Natacha Polony,
je pense qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, est excessivement tranquille.
Je pense qu'il n'y a pas encore de principal opposant à Emmanuel Macron et que c'est tout le problème de la politique française aujourd'hui, c'est que c'est un one-man show.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et on va justement quitter la politique française pour un instant. Raphaël Glucksmann, ce qui vous a marqué cette semaine, c'est la campagne électorale chez nos voisins italiens. Les élections législatives auront lieu le 4 mars prochain.
Et c'est une élection cruciale pour l'avenir de l'Europe et pour ce qu'elle va nous dire de l'état des démocraties libérales occidentales. On a des sondages. Déjà, on a eu un climat de campagne absolument délirant où la Ligue du Nord et Casaponte qui est un groupuscule fasciste, en gros, donne le là des thématiques qui sont abordées pendant la campagne, et en particulier donc les migrants, 80% du temps. Et en plus, on a des sondages donc qui nous disent que les votes cumulés de la Ligue du Nord, de Casaponde, du mouvement 5 étoiles et de Berlusconi, si on le rajoute à tout cela, c'est quand même plus des deux tiers des voix. Donc là, on a un vrai problème démocratique en Italie. Et en plus, on va assister probablement au grand retour de Silvio Berlusconi sur le devant de la scène politique.
Même s'il est inéligible.
Même s'il est inéligible. Il va contrôler la coalition qui est en tête dans les sondages et qui en passe de l'emporter. Et ce sera perçu comme sa grande victoire. Et en un sens, c'est... alors là, je vais mettre des guillemets, c'est justice. Parce qu'en fait, tout le monde se moquait en France de Silvio Berlusconi et des Italiens en se disant, mais comment peuvent-ils, je m'en souviens très bien, comment peuvent-ils voter pour un taré pareil, objectivement corrompu.
Réélire.
Et comment peuvent-ils faire ça? Et finalement, on les prenait pour des attardés. En fait, c'était des précurseurs, les Italiens. Et on a toujours tort de se moquer des Italiens, puisque c'est eux qui ont inventé la politique moderne au moment de la Renaissance, et que là, ils ont inventé la post-politique post-moderne avec Silvio Berlusconi, et qu'aujourd'hui, Silvio Berlusconi, il est président des États-Unis, il est premier ministre de République tchèque, il est dans la coalition en Autriche. Bref, des Silvio Berlusconi se sont répandus absolument partout. Donc, en fait, en gros, l'inventeur de la crise politique qu'on est tous en train de vivre est en train de revenir sur le devant de la scène, et c'est un clin d'œil de l'histoire absolument tragique, mais c'est quand même un clin d'œil de l'histoire.
Disons qu'il n'est pas l'inventeur de cette crise politique, il en est le premier bénéficiaire ou le premier qui a compris qu'il pouvait en être bénéficiaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, mais justement, la question est de savoir comment tout cela arrive. Pourquoi on en arrive là ? Un simple exemple. La loi électorale italienne a toujours été d'une complexité épouvantable. Elle a encore été complexifiée. Pourquoi ? Pour fragiliser le mouvement 5 étoiles. Ce qui est, on a toujours tort là aussi d'essayer de manipuler. Parce que, évidemment, on va se retrouver avec donc, l'alliance entre Silvio Berlusconi et le... Et les autres partis néo-fascistes, etc., qui va profiter de cela, même si justement ça risque d'être ingouvernable. Ensuite, si on regarde le parcours, souvenons-nous, Berlusconi quitte le pouvoir en 2011, fortement chassé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Par quoi est-il remplacé ? On est en pleine crise des dettes souveraines. Par quoi est-il remplacé ? Par un gouvernement d'experts mené par Mario Monti, avec cette idée absolument effarante qui est qu'on va pouvoir régler les problèmes qui se posent aux démocraties par l'expertise, par l'idée de gens qui sont des spécialistes, qui vont expliquer au peuple « bon, vous n'y comprenez rien, vos aspirations sont... on s'assied dessus parce que vous ne savez pas ce qui est bon, et ce qui est bon, c'est le respect des critères économiques que nous avons fixés. » C'est ça qui s'est passé. Ça a été un échec. Donc aujourd'hui, on a un retour de bâton. Et dernier point, dernier point, la question des migrants, on ne peut pas faire comme si ça n'était pas un sujet en Allemagne, en Italie, et bien un sûr. Sujet majeur.
C'est un sujet, mais c'est pas 80% d'une campagne électorale avec en plus des hurlements d'un mec qui ferait passer Marine Le Pen, mais pour une sorte d'humaniste 5 étoiles absolument génial, qui est le leader de la Ligue du Nord et qui arrive.
Vous ne caricaturez pas.
Mais non. Moi, je connais bien l'Italie. J'y ai vécu. J'ai travaillé à la Repubblica, à Rome. Je les connais. Je les lis. Et je peux vous dire que la manière dont Salvini parle en ce moment pendant la campagne électorale en Italie, honnêtement, même l'aile droite du mouvement de Jean-Marie Le Pen, pas de sa fille, aurait du mal à s'exprimer ainsi. Et donc, la manière dont il parle des migrants, c'est quand même quand il y a un de leurs militants, parce que c'est quand même un de leurs militants de la Ligue du Nord, qui sort son fusil et qui va tirer à vue sur des Noirs dans les rues, eh bien, on explique que c'est de la faute des migrants. Et il n'y a pas du tout d'unité nationale pour condamner le geste.
L'Italie, c'est un laboratoire pour vous, Natacha Polony, comme le disait Raphaël Luxman.
Et là, c'est un laboratoire, c'est une victime de l'impuissance générale et du déni de toute l'Union européenne depuis des années. Parce que cette situation-là, qui en effet est ignoble, elle est là aussi, elle a pourri pendant des années.
Bien sûr.
Vous avez des endroits en Italie où la mafia soudanaise s'est associée avec la mafia italienne et où vous avez des... comment dire, une telle proportion de migrants qui, hélas, ne peuvent pas trouver comment s'installer, comment être aidés, que ça donne des situations absolument dramatiques.
Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Il y a une nullité absolue de la réponse technocratique face à ces mouvements populistes. D'accord. Enfin, il faut quand même dire que ces paroles qui structurent aujourd'hui la campagne italienne sont inacceptables.
Je viens de le dire, c'est ignoble. La question, c'est de savoir comment on en arrive là et comment on évite que ça dégénère.
Et que le Trumpo-berlusconisme, c'est sans doute une conséquence de la crise de la politique en Europe, mais c'est une conséquence absolument abject, qui ne fait qu'entretenir la crise. Et on va se retrouver avec un pays qui n'est pas la République tchèque, qui est quand même un des pays fondateurs et principaux de l'Union européenne, dirigé par une coalition qui, honnêtement, est bien pire encore que la coalition chrétienne.
Dénoncer l'abjection ne changera rien au problème. Tout de même, on peut dire que le peuple italien, étant donné le nombre de migrants qui sont arrivés en Italie, a pour l'instant gardé une dignité qui est sans doute assez admirable en moyenne. Donc espérons que cela va continuer et trouvons les solutions pour éviter que cela dégénère.
Bien sûr, la solution, elle est européenne. On ne peut pas c'est l'Italie ou la Grèce seule face à la crise des migrants. Mais enfin, dans les réactions admirables, il y a des réactions admirables, il y a aussi des discours politiques absolument stigmatisants.
On est bien d'accord, mais le dire ne sert à rien.
On va en rester là. Et il y a aussi une nouvelle catégorie politique que vous venez d'inventer, Raphaël, le Trumpo-berlusconisme. Le grand face-à-face de France Inter continue avec maintenant le débat de la semaine.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
La République et sa mémoire. Quelles dates, quels événements, quels personnages, quelles œuvres de notre histoire devons-nous commémorer? Pour en débattre, l'un de nos grands historiens, longtemps membre du Haut Comité des Commémorations Nationales, nous lui devons un monument, les lieux de mémoire, et il diagnostique en France les symptômes d'une drôle de maladie, la commémorationnite. Pierre Nora de l'Académie française est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de sujets à voir avec vous, mais vous avez lu ce numéro hors série de excellent magazine, le 1, qui vient d'arriver en kiosque, un numéro intégralement consacré à Clémenceau et un article signé par Emmanuel Macron sur le grand homme, un authentique héros français. Comment comprenez-vous la démarche du président de la République de rendre hommage à l'un des héros de la France d'aujourd'hui?
C'est assez normal. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et au fond, ce qui est intéressant dans son article, il faut dire beaucoup de bien du numéro. Il est excellent, avec un grand entretien de Michel Binoc, qui est l'auteur d'une biographie de Clémenceau. Et je crois que c'est assez normal, cette espèce de projection de lui-même dans Clémenceau. C'est ça qui est extrêmement frappant. Et qu'il
oui, parce
y a
que
une
le
sorte
président
de similitude
de
avec ce qu'il avait fait sur Jeanne d'Arc.
En Clémenceau.
Oui, bien sûr. Et il y a une sorte de similitude avec ce qu'il a fait sur De Gaulle, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que ces trois héros sont des sauveurs de périodes où la France était au bord du désastre absolu. Et donc cette identification, ou du moins cette projection de lui-même dans ces personnages, il le dit d'ailleurs souvent de la France elle-même, il est arrivé comme un sauveur lui-même. Alors c'est assez...
Ça vous fait sourire, ça fait sourire l'historien que vous êtes, Pierre Nora?
Vous n'avez pas sourire, mais enfin, il y a quelque chose de très bizarre dans cette espèce de mystique intérieure chez cet homme qui, apparemment, et de l'extérieur, serait non pas normal, si j'ose dire, président, pas du tout, mais quand même quelqu'un issu de la méritocratie et de l'aristocratie intellectuelle et technocratique de la France, et qui est habité, il n'y a pas de doute, par quelque chose qui plonge très profondément dans l'histoire de la France. Alors, ce qu'il y a d'amusant à propos de Clémenceau, c'est qu'il y a une sorte d'unanimité nationale et historienne. Il y a pour les historiens, je parlais de Vinoc, il y a aussi le musée Clémenceau qui est animé par Jean-Noël Jeannonet. Clémenceau fait l'unanimité non seulement historienne mais politique. Il y a Clémenceau de Valls par exemple,
oui.
Et qui est très différent parce que pour Valls c'est l'affaire Dreyfus, c'est le républicain et c'est le laïc. Tandis que pour Macron c'est le chef de guerre et c'est le sauveur de la nation.
C'est d'ailleurs sans doute, pour ma part, c'est ce qui m'a frappé dans ce texte qui en effet relève d'une identification très très marquée,
oui.
Et presque pompière, j'allais dire. Mais c'est que le mot République n'apparaît pas dans ce texte. Jamais le président n'écrit le mot République à propos de Georges Clémenceau, ce que je trouve significatif parce que c'est tout de même un exploit. Et il tire Clémenceau vers ce qui l'intéresse en oubliant tout ce qui a fait Clémenceau.
Oui.
C'est-à-dire qu'il évacue aussi bien cette dimension qui hypertrophiée par Manuel Valls, mais immense laïcité, et une laïcité que beaucoup pourraient juger intolérante, car Clémenceau est loin d'être quelqu'un de tolérant, c'est quelqu'un de virulent.
Dur,
c'est très, pas brillant.
Pierre Nora, C'est intéressant de voir que c'est le père, la victoire, qui est honoré par le président de la République, oui. Ce processus d'identification.
Et oui, c'est intéressant. N'oubliez pas qu'il est obligé de le faire pour c'est la fin de la guerre.
La fin de la guerre.
Bon, donc, il est un peu obligé, il va être obligé de faire un discours sur le centenaire de la guerre de 14.
Ça, c'est certain, avec un mois de novembre, une année, 1918, qui sera commémorée en 2018. C'est, malgré tout, l'une des rares dates que nous commémorons, allez, dans l'unanimité, de manière consensuelle, sans qu'il y ait de problème, le 11 novembre 1918.
Oui, d'accord, mais l'année 18 va être chargée de commémorations incontournables, devant lesquelles il va avoir probablement lui aussi à se prononcer, ou s'il ne se prononce pas, c'est aussi significatif, c'est la fondation de la Ve République.
1958.
C'est 68, mai 68, sur lequel il a laissé entendre qu'il, à un moment donné, qu'il voudrait dire quelque chose. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui, par rapport à l'Europe, n'est pas rien. En 1948, en pleine guerre froide, quelque chose qui est passé à ce moment-là inaperçu et qui a pris une dimension d'époque extraordinaire. Donc, on en a beaucoup des commémorations avec le centenaire de la guerre.
Trop, avant de passer la parole à Raphaël Glucksmann, trop de commémorations, Pierre Nora?
Si vous voulez que j'y fasse, elles sont là.
Oh bah c'est vous qui avez inventé ce mot de la commémorationnite.
Oui, mais ça c'est dans un autre contexte.
Et on va y venir justement. Oui. Raphaël.
Ce qui est intéressant quand même sur le Clémenceau de Emmanuel Macron, et en règle générale sur les figures historiques qu'il choisit, c'est quand même à chaque fois pris sous l'angle du consensus. C'est-à-dire le refus du personnage dissensuel. Et Clémenceau, qui était un personnage qui s'est construit dans le dissensus jusqu'à la guerre, devient là une figure d'unification de la nation. Par-delà la droite et la gauche, et finalement le De Gaulle que Macron révère et vénère, c'est aussi ce De Gaulle qui unifie la nation. Et évidemment, par contre, il n'y a pas eu de mots pour l'anniversaire de par exemple les fusillés de l'Affiche rouge, c'est-à-dire que il y a quand même une histoire consensuelle et c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on lit le Clémenceau de Valls, lui Valls qui est dans le dissensus permanent, il insiste sur l'aspect de rupture dans la société française qu'incarne Clémenceau, qui était un radical républicain ultra laïque, très loin de Aristide Briand ou des personnages plus consensuels qui ont forgé ensuite la loi de 1905.
Pierre Nora.
Ce que dit Raphaël Glucksmann est parfaitement juste. Ce qui l'intéresse, c'est le rassemblement, c'est le consensus, c'est l'incarnation nationale.
C'est le roman national. C'est le besoin pour la France de retrouver un roman national. Vous savez que le débat est en cours. Nous y voilà. Mais ce dont on parle, est-ce que ce n'est pas justement de ça, Pierre Nora? Ça vous fait sourire?
Bon, ça me fait sourire parce que c'est un peu une tarte à la crème maintenant, cette histoire de roman national.
Oui.
Qui est un peu relancée par l'apparition du livre de Christian Petit-Fils. Il y a d'ailleurs un fort bon historien que je salue, un ami.
Qui publie une histoire de France chez Fayard, qui est une sorte
une
de réponse.
De la France.
De la Tout France.
Est là. De la même chose que l'histoire de France.
Et qui répond à l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, dont on se souvient aux éditions du Seuil.
Vous voulez en parler?
Avec plaisir.
Moi, je les apprécie tous les deux, si j'ose dire, mais je les renvoie dos à dos. Et à titre personnel, comme historien, je me bats sur ces deux fronts. Et parce que j'ai polémiqué avec le livre de Boucheron sur l'histoire mondiale de la France, qui me paraissait une politisation et une idéologisation outrancière de la France, outre le fait qu'il n'y avait aucun fil continu et que, indépendamment de la médiocrité générale des articles, bâclés parce qu'il fallait faire vite, et c'était un geste politique plus qu'un geste scientifique, et ça donnait des espèces de petits gris, enfin petits bulles de France, si j'ose dire, billes de France, si on veut, qui ne faisaient pas une histoire continue de la France, qui consistait à décaler une histoire chronologique classique et qui perdait de sa signification. Voilà, donc il s'agissait d'ébranler, en fait, une espèce de certitude que par ailleurs personne n'avait. Donc, et quant à l'histoire de Petit-Fils, qui est bien faite, et c'est à recommander, il va faire un succès, je le lui souhaite, Je regardais son dernier chapitre, qui est une France piteuse. Or, un roman national qui se termine mal, c'est pas la peine de l'écrire.
Il faut un happy end de roman national, comme
quand j'en avais. On me prête l'invention généreusement de cette formule à propos d'Ernest Lavis, mais qui terminait après 1918. Et donc l'ensemble de l'histoire de France se terminait par cet énorme succès, sur le moment qu'on a cru un succès, et sur le plus grand effort que la France avait fait sur elle-même pour survivre. Et donc on pouvait savoir d'où on partait pour en arriver là. Mais si on partait d'où pour en arriver aujourd'hui à ce désastre, c'est pas une bonne formule que de faire un roman national. Et d'autre part, son livre est purement politique. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse faire une histoire de la France sans s'interroger sur ce qu'est la France et en se contentant d'un fil strictement politique, un peu comme autrefois on le faisait à partir des règnes des rois.
Mais vous semblez dire que, finalement, on ne pourrait pas écrire un roman national si l'on est dans le constat que ce roman national est abîmé, c'est-à-dire interdiction aux nostalgiques d'écrire un roman national.
Non, c'est pas du tout interdit. Ils peuvent très bien l'écrire, les nostalgiques. Simplement, l'animation de la France, l'éducation qu'on va faire aux Français, c'est pas recommandé qu'elle soit nostalgique.
Je suis bien d'accord.
Il faut mieux essayer de trouver, ce qui n'est pas facile à trouver, je le reconnais parfaitement, une histoire qui va être un fil continu. C'est
mais
ça.
Est-ce que tout ça...
Et ce film continu, il peut y en avoir des tas. Il y a des tas de raisons d'être, j'allais dire, fier de la France et de son histoire. Je me souviens que quand Macaulay avait fait son livre « Fier d'être français », vous vous souvenez, je m'étais amusé à lui dire « Écoute, c'est très bien, mais si tu veux, on va faire un dialogue, de quoi est-ce qu'on a à être fier ?» Alors là, il s'était beaucoup gratté la tête en disant « Écoute, moi, c'est un cri du cœur contre le déclinisme, mais j'aurais beaucoup de mal à dire de quoi. » Non, moi, je crois que je trouverais beaucoup de choses dont on peut être fier, ne serait-ce que l'invention des droits de l'homme.
Raphaël Guzman.
Mais le problème de l'idée de roman national, outre le fait qu'il tend souvent à idéaliser un passé pour déprécier le présent, en gros, c'est le cas souvent, l'autre problème, c'est que toutes ces raisons d'être fier d'être français, tous ces moments qui peuvent et qui doivent nous rendre fiers d'appartenir à une histoire, à une nation comme la France, c'était des moments de conflictualité. C'est-à-dire que c'est des moments où la France s'est divisée, où la France est entrée en conflit. Et c'est comme ça, les droits de l'homme, la Révolution française, les progrès sociaux, c'est pas des moments d'unité nationale mythique. C'est des moments où il y a eu un grand débat.
La division peut être des thèmes fondateurs de l'identité.
Bien sûr, et moi je pense que souvent on zappe la conflictualité dans cette volonté de montrer que la France a un destin. Oui, la France a un destin. Mais la France a un destin qui est conflictuel. La France s'est divisée en deux au moment de l'affaire Dreyfus. C'est en soi génial qu'on se divise en deux à propos d'un capitaine de l'armée d'origine juif. Mais il n'empêche que c'est le conflit qui fait l'histoire.
Raphaël, j'irai beaucoup plus loin. La France est le seul des pays qui a deux mythes d'origine conflictuels. Hein? Les Francs et les Gaulois.
Mais est-ce que tout ça ne nous dit pas avant tout que tout dépend du statut de l'histoire, qui n'est sans doute pas le même quand on est un politique, quand on est un historien, c'est-à-dire un chercheur, quand on est un professeur d'histoire, ce qui pour moi n'est pas la même chose qu'un historien. Il n'a pas la
et
même.
Et si on est professeur dans le supérieur ou dans l'élémentaire.
Il me semble que l'histoire ne sert pas à la même chose et donc ne doit pas être construite de la même manière. Et le problème est de vouloir mêler tout cela pour faire comme si c'était la même chose d'enseigner à des enfants ce qui doit leur faire aimer leur pays et leur faire le comprendre, ou le travail d'un chercheur qui doit être d'essayer au maximum d'aboutir à une compréhension des événements. Et quant à un politique, qu'il raconte un récit qui soit un récit d'unité nationale ne me semble pas choquant, du moment qu'il ne nettoie pas les périodes de conflictualité, mais qu'au contraire, il les assume pour penser leur intérêt.
Clémenceau, est-ce que là, on n'a pas justement une entreprise de nettoyage nettoyage.
C'est-à-dire totalement. Que, c'est-à-dire on que, oublie, et, on oublie le traité de Versailles, parce que la fin de l'histoire n'est pas terrible.
Clémenceau, le père de la victoire.
Le père de la victoire.
Très bien. Et c'est aussi le père du traité de Versailles qui rate complètement l'après-guerre et qui, par esprit de vengeance contre non pas l'empire allemand, mais contre le peuple allemand, ses hordes germaniques, va empêcher la République sociale-démocrate allemande de s'enraciner en lui plantant en fait des pics dans le corps.
Écoutez, il y a...
Pierre Nora.
Oui, vous avez tout à fait raison. On oblitère beaucoup sa responsabilité dans les traités de Versailles qui ont été l'organisation de la catastrophe européenne d'après-guerre. Et dans le conflit qui est très souvent rappelé à propos de la colonisation, Ferry, Clémenceau étant pour le patriotisme national contre la colonisation, et Jules Ferry pour l'expansion française outre-mer et la colonisation. Alors on exalte, rappelez-vous, l'intronisation de Hollande, qui s'était mis sous le signe de Jules Ferry, mais du bon Jules Ferry, c'est-à-dire celui de l'enseignement laïque et obligatoire et gratuite, et qui chassait le mauvais Ferry, qui était celui de la colonisation, alors que non seulement c'est le même homme, mais c'est pour les mêmes raisons qu'il a voulu l'éducation populaire et qu'il a voulu la colonisation.
Mais le 11 novembre 1918, je reprends ma question, une figure comme celle de Clémenceau, il n'y en a pas beaucoup des dates, des personnages comme cela qu'on peut célébrer sans réserve et de manière consensuelle, Pierre Nora, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'il fait le plein. Il est sur toutes les cases, en effet, comme de Gaulle, lui aussi. Je ne sais pas si c'est un héros, mais c'était effectivement très intéressant de voir comment se fabrique un héros et comment on le fabrique. Et on vient de le dire là beaucoup, il y a une fabrication de l'image de Clémenceau qui oblitère d'abord son caractère personnel, qui était franchement pas très sympathique.
Le président de la République dit qu'il est bougon. Je crois que c'était...
Il était plus bougon, il était extrêmement colérique, très méprisant... très personnel, explosif, pas très sympathique à beaucoup. Beaucoup de ses collègues, et de droite et de gauche, ne l'aimaient pas beaucoup. Justement, mais il était aussi très drôle parce qu'il était méchant. Mais il était méchant.
Donc... Mais avec esprit.
Mais c'est intéressant parce que là, il y a la fabrique du héros, il y a aussi la fabrique du salaud, puisque récemment, dans l'actualité, il y a eu cette affaire Charles Maurras, d'abord inscrit dans le livre des commémorations nationales avant d'en être retiré après une belle polémique. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire-là? Il y a eu ces prises de parole d'historiens, Jean-Noël Jeannet, Pascal Horry, qui ont fait la distinction entre commémorer, célébrer. Mais c'était assez subtil et compliqué. Non, mais qu'est-ce qu'on fait de Charles Maurras?
Puisque on s'était posé ce problème au moment de... j'ai fait partie 12 ans de ce comité, depuis sa création en 1998, sous Chirac, et jusqu'en 2010. Et il y a toujours eu une ambiguïté, je l'ai écrit, qui a pesé sur ce comité. D'un côté, c'était un vrai comité étatique de célébration et de commémoration nationale qui était fait pour orienter la politique de célébration. Et puis très vite, c'est devenu, dans le cadre des archives nationales, une sorte de livre de repères historiques et d'anniversaires à célébrer. D'autant que à l'époque, on a été en pleine... effusion de ce que vous rappeliez, ce mot de commémorationnite, disons qu'on entrait dans l'ère de la commémoration, et que beaucoup de villes, de villages, retrouvaient leurs grands hommes, célébraient d'une façon d'ailleurs un peu neutre. Faut pas oublier, par exemple, que cette commémorationnite, peut-être, peut avoir une date de naissance repère qui serait 1980, l'année du patrimoine. Et les conditions historiques de cette année sont très amusantes parce que c'est juste avant les élections et Giscard, après l'année de la femme et l'année de l'enfant, trouve qu'au fond, au dernier Conseil des ministres de 78 ou 79, ce serait peut-être une bonne idée de faire que les Français se tournent vers leurs vieilles choses, enfin comme ça. Et donc, est lancée comme ça une idée d'année du patrimoine. Et puis, vagues de fonds qui remontent des provinces, des demandes d'aide à la réfaction des remparts de la ville, du lavoir du village, des vieilles choses, effectivement. Et on cherche dans les greniers les vieilles robes pour... C'est le Puy du Fou, d'une certaine façon, qui commence à naître à ce moment-là. Là, il y a eu une vraie, si vous voulez, commémoration qui montait des profondeurs. C'est une espèce de 68 rural, si j'ose dire, qu'a été l'année du patrimoine, et où on s'est aperçu que la France plongeait dans son passé. C'est ça, après tout, la commémoration elle-même. Et en même temps, on est entré dans une ère de date très difficile, parce que les fins de siècle... Renan disait l'embêtement des siècles, c'est qu'ils ont une fin et qu'il faut les célébrer, les fins de siècle. Mais dans ces fins de siècle, il y a eu beaucoup quand même de grosses commémorations, depuis l'affaire Dreyfus par exemple, la révocation de l'édit de Nantes, en 87, il y a eu cette commémoration. L'histoire du millénaire capétien est formidable, si je peux l'esquisser. C'est que Chirac, maire de la ville, voulait trouver quelque chose pour embêter Mitterrand avant 89. Et il avait fait un comité d'historiens, dont heureusement je n'étais pas, mais il y avait Chaumur et Mont, enfin des tas de gens, pour trouver des dates avant 89 qui pourraient mettre dans les pattes de Mitterrand. Et finalement, Chaumur avait dit, il y a 87, il y a subi l'air comme ça, mais on ne sait pas très bien si Capet est arrivé en 87, en 86, en 900. Bon, Chirac s'en est emparé, et ça a été un gros succès. À tous égards, et je me souviens de l'Express, je crois, de l'époque, qui titrait en énorme « La France à Milan ». Et ça touchait le cœur des Français. Ça a été comme une fin de l'idée révolutionnaire et de la grande coupure révolutionnaire. La France à Milan, si vous voulez, c'était une grande... l'année 89, il y a quand même eu le centenaire de la Révolution, le bicentenaire... Et 90, l'année de Gaulle. Et je crois qu'elle a joué un grand rôle dans le renversement dont Raphaël Glucksmann parlait des types de personnages, car ce de Gaulle qui a été un homme de la division à plusieurs occasions, en particulier en 40 et en 58, au moment de la guerre d'Algérie, est devenu progressivement l'homme de l'unité nationale, le père de la patrie et le meilleur des républicains, alors qu'il ne l'était pas spécialement au début.
Peut-être parce que...
Il reste quelques minutes, Natacha Perafel.
Juste rapidement, on voit, avec le bicentenaire de la Révolution et cette célébration-là, à ce moment-là, certes, on construit des figures consensuelles, mais on voit aussi poindre la modification de la perception de l'histoire. C'est-à-dire que le bicentenaire de la Révolution amène l'interprétation de la Révolution vers quelque chose qui est tourné vers ce qu'on appellerait aujourd'hui le multiculturalisme, la diversité, ce qui, étant donné le sens de la Révolution française, était relativement audacieux. Et à partir de là, on entre dans une période, me semble-t-il, où c'est cette concurrence des mémoires qui est en fait le fait d'une lecture, j'allais dire, minoritaire de l'histoire, où chacun veut faire valoir sa mémoire contre l'histoire, qui entre en conflit. On n'en est toujours pas sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité dans une société totalement éclatée où chacun veut lire sa propre histoire, de construire l'histoire commune.
Pierre Nora.
Natacha Bollini exprime toutes les contradictions dans lesquelles on est. Et en effet, les pétitions d'unification sont un peu... Moi, je dis souvent que le roman national, c'est devenu une romance nationale, plus qu'un vrai roman. Donc, une romance un peu nostalgique. Néanmoins, je crois que, en dépit de toutes les divisions et de tout l'accès de ces mémoires minoritaires, il y a une voie probable d'unité, ne serait-ce que parce que ces mémoires minoritaires sont des appels à être reconnu par la grande mémoire, par la mémoire qui ne les reconnaissait pas.
Et on a eu l'occasion d'en parler, notamment avec le président Ducran.
C'est la mémoire coloniale, même la mémoire coloniale. C'est de la mémoire féminine.
Raphaël Luxman.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec cela. C'est-à-dire que la concurrence des mémoires, c'est un problème. Mais d'où vient ce problème? Ce problème vient aussi du fait que le roman national français ne laissait aucune place à la pluralité des mémoires et excluait toute une série de faits. De faits historiques et en ripollinait notre histoire. Et donc, moi, je pense que au lieu de roman, il faut parler de récit et laisser place à la conflictualité, au trouble qui constitue une histoire nationale. C'est-à-dire que si on nous explique qu'il y a un roman français et que depuis le début tout va bien, forcément ceux qui ont une mémoire différente parce qu'ils la portent, eh bien, vont être dans la contradiction et dans la revendication. Donc, si on arrive à faire un récit qui ne soit pas un roman et qui ne soit pas à ce point unificateur, eh bien, je pense qu'on arrivera aussi à estomper cette logique de concurrence.
Pierre Nora.
On peut le souhaiter. J'en suis pas sûr. Parce que je pense que beaucoup de ces revendications mémorielles, et en particulier la revendication coloniale, n'est pas vraiment une demande de reconnaissance et d'inscription, c'est une mémoire accusatrice et volontière destructrice de la mémoire nationale traditionnelle. Donc elle est plus radicale et elle demande moins une inscription qu'une... C'est d'ailleurs, il y a une division à l'intérieur de ces militants de la mémoire nationale. Il y a précisément ceux qui veulent, comme vous dites, être reconnus et inscrit au grand registre de la mémoire nationale, et ceux qui veulent au contraire la mettre en accusation essentielle.
Est-ce que vous vibrez au souvenir du sacre de Reims? Est-ce que vous lisez avec émotion le récit de la fête de la Fédération? Moi non plus, je ne la comprends pas. C'est la phrase de Marc Bloch qui est assénée comme une vérité absolue.
Oui.
Et ben donc?
Et ben donc quoi?
Vous vibrez, est-ce que vous... Non, mais je plaisante, est-ce que vous lisez avec émotion, Raphaël, vous?
Mais moi, de toute façon, je préfère la prise de la Bastille et la proclamation des droits de l'homme à la fête de la Fédération, qui était en fait une illusion, la fête de la Fédération.
Et le sacre de Reims?
Moi, j'aime la fête de la Fédération, mais je pense en effet qu'il faut aussi commémorer les guerres de religion parce que c'est crucial, la croisade contre les Albigeois, mais aussi le rôle de Henri IV et de l'édit de Nantes, Tout cela.
Ça, ce sera le mot de la fin, Pierre Nora.
Les France.
On aurait envie de continuer cette discussion avec vous et j'espère que vous reviendrez pour la prolonger. Merci infiniment d'avoir été notre invité. C'est la fin du grand face-à-face. Natacha, Raphaël, à la semaine prochaine. Merci à la petite Louise, à Ophélie Vivier, à la réalisation Anne Lioro, à la technique Céline Guéribi, à suivre Zoé Varier et sa journée particulière.